Chapitre 8. Comment Bessie Pryor reçut deux lettres de Launay. Bessie reçut le même jour deux lettres d'Angleterre, à la mi-août, et le lecteur pourra les lire toutes deux. Mais voyons d'abord celle qu'elle reçut en dernier. Elle était de Mrs. Miles et avait été écrite quand Bessie commençait à penser que sa tante était toujours résolue à ne pas lui écrire. Elle était écrite sur du papier de forme carrée, qui de nos jours n'est utilisé, même par les personnes un peu démodées, que si la lettre est supposée être d'une grande importance. Elle comportait ce qui suit. « Ma chère Bessie, bien que je vous ai dit de ne pas m'écrire, je n'en suis pas moins heureuse d'apprendre que vous allez bien et que votre nouvelle demeure vous a été rendue aussi agréable que possible au vu des circonstances. Launay n'est plus agréable depuis votre départ. Vous me manquez beaucoup. Vous m'êtes devenue si chère que ma vie est triste sans vous. Ma vie n'a jamais été belle, mais elle l'est maintenant moins que jamais. J'aurais hésité à vous en faire l'aveu si je n'avais pas l'intention d'en faire le prélude de ce qui va suivre. Nous avons été envoyés en ce monde, mon enfant, pour accomplir notre devoir, indépendamment de ce sentiment volage que nous appelons le bonheur. Dans les plus petites choses de la vie, je suis sûr que vous n'auriez jamais recherché le plaisir au prix de votre conscience. Si vous ne le faites pas pour de petites choses, alors certainement vous ne le feriez pas pour les plus importantes. Pensez au bien-être des autres en vous oubliant vous-même quand la tentation vous pousse à mal agir, et alors faire ce qui est bien, voilà votre devoir de chrétienne, et surtout votre devoir en tant que femme. Se sacrifier soi-même, c'est l'héroïsme des femmes. Les hommes peuvent assouvir leur passion par la réalisation de leur travail, et rester néanmoins des héros. Une femme ne peut s'élever que par la souffrance. Vous comprenez pourquoi je vous parle de cela. Mon fils et moi sommes nés à un certain niveau qu'il me semble être de mon devoir de maintenir. Non pas que lui ou moi ayons à nous réjouir que je professe cette opinion, mais je dois faire ma part pour maintenir cet ordre des choses qui fait de mon pays un pays plus favorisé que les autres. Il serait trop long de tout expliquer, mais je sais que vous me croirez quand je vous dirai que je ne suis guidée que par un impérieux sens du devoir. Vous n'êtes pas de la même naissance. Vous devez savoir que cela n'affecte pas mes sentiments personnels envers vous. Vous avez pu vous rendre compte à quel point vous m'étiez cher. En ce moment, la vie m'est un fardeau, car je n'ai pas ma Bessie avec moi. Ma Bessie qui a été si bonne pour moi, si aimante, une si complète bénédiction que le simple fait de voir l'ourlet de ses vêtements, d'entendre le bruit de ses pas, illuminait ma vie. Maintenant, il n'y a plus rien à voir, plus rien à entendre, qui ne soit laid ou pénible à mon oreille. Oh, Bessie, si vous pouviez me revenir. Mais je dois accomplir ce devoir dont j'ai parlé, et je l'accomplirai. Même si je devais ne jamais vous revoir, il me faut l'accomplir. Je suis habitué à souffrir, et parfois je pense que même le fait de souhaiter votre retour à mes côtés est mal. Mais je vous écris afin que vous compreniez tout. Si vous dites que vous renoncez à lui, vous pourrez revenir pour être ma fille bien-aimée. Je vous dis que nous ne sommes pas de même naissance. Il me faut vous le dire, mais vous seriez si cher à mon cœur que rien ne pourrait nous séparer. Vous ne pouvez l'épouser tant que je vivrai. Je ne crois pas possible que vous puissiez avoir hâte que je sois morte pour trouver le bonheur. Et vous devez vous souvenir qu'il ne peut pas être le premier à rompre cet engagement déraisonnable sans faillir à l'honneur. Étant le plus riche, le mieux né et étant l'homme, il ne peut pas prononcer ces mots le premier. Vous, vous pouvez le faire sans fausseté et sans déshonneur. Vous pouvez le dire, et le monde entier saura que vous avez été guidé par le sens du devoir. tout le monde reconnaîtra que vous vous êtes sacrifié comme il convient à une femme. Un mot suffira à me rassurer. Depuis que vous êtes venu à moi, jamais vous n'avez été fausse. Un mot et vous pourrez revenir, me retrouver, moi et Loné, mon ami, mon trésor. Si souffrance il doit y avoir, alors nous souffrirons ensemble. S'il doit y avoir des larmes, ce seront nos larmes qui se mêleront. Je suis âgé, mais je peux comprendre. Je reconnaîtrai le sacrifice. Mais Bessie, Bessie, très chère Bessie, ce sacrifice doit être fait. Bien sûr, il doit vivre loin de Loné un moment. La faute était sienne et il doit en supporter les conséquences. Il ne devra pas venir ici tant que vous n'aurez pas dit que vous pouvez supporter sa présence sans ajouter à votre chagrin. Je suis sûr que vous ferez en sorte que cette lettre n'ait pas été écrite en vain. Je sais que vous allez y réfléchir avec attention et que vous ne me laisserez pas attendre trop longtemps la réponse. Je n'ai pas besoin de vous dire que je suis votre amie la plus dévouée, M. Miles. » Au moment où Bessie lisait cette lettre, quand les mots très durs avec lesquels sa tante plaidait sa cause lui meurtrissaient le cœur, elle tenait dans sa main l'autre lettre de son bien-aimé. Elle aussi avait été envoyée de Loné. « Ma très chère Bessie, ce n'est que maintenant que je viens de découvrir où vous êtes. » Et je n'y suis parvenu que parce que les gens du presbytère n'ont pas su garder le secret. Que peut-il y avoir de plus absurde que d'imaginer que ma mère puisse atteindre son but en vous envoyant au loin et en vous séquestrant en Normandie? C'est pure folie! Elle m'a fait chercher et je suis venu comme un fils obéissant. À vrai dire, j'étais heureux de l'avoir redevenue telle que je la connaissais. Mais je n'ai pas poussé le devoir jusqu'à lui obéir dans une matière à laquelle tout mon bonheur futur est intimement lié, ainsi que sans doute celui d'une autre personne. Je lui ai dit que je ne me hasarderais pas à dire quoi que ce soit concernant le bonheur de cette autre personne. Peut-être celle-ci est-elle indifférente, mais non, je suis certain qu'elle ne l'est pas. J'ai dit à ma mère que je sais ce que je veux, et que je ne suis pas prêt à abandonner mes espoirs de l'obtenir. Je sais qu'elle vous a écrit, elle peut bien sûr faire ce qui lui plaît. L'idée d'espérer séparer deux personnes adultes comme nous, qui connaissons parfaitement nos sentiments réciproques, vous voyez que je ne doute absolument pas des vôtres, est aussi folle qu'il est possible. C'est comme si nous revenions une demi-douzaine de siècles en arrière pour retrouver les tyrannies du Moyen-Âge. Mon objectif est de l'amener à vous laisser revenir à la maison pour y être mariée à Loné comme il convient. Si elle n'y consent pas d'ici la fin du mois, je viendrai vous rejoindre et il nous faudra nous résoudre à nous marier à Avranches. Quand la chose aura été faite, toutes ces âneries seront balayées. Je ne puis croire un seul instant que ma mère pourrait nous punir par quelque injustice en matière d'argent. Écrivez-moi et dites que vous m'approuvez. Et soyez sûr que je reste entièrement vôtre, sincèrement et affectueusement, Philip Miles. » Quand Bessie Pryor considéra ces deux lettres l'une à côté de l'autre, elle pensa que la tâche était presque trop ardue pour elle. La lettre de son fiancé avait été la première qu'elle avait lue. Elle avait reconnu son écriture et, bien sûr, l'avait ouverte en premier. Et tandis qu'elle la lisait, tout autour d'elle semblait prendre des teintes de rose. Bien sûr, elle était heureuse. Quelque chose dans les paroles de Miss Gregory avait affaibli la foi de Bessie en son fiancé. Le major général avait été matérialiste et menteur, et il n'était pas impossible que son Philippe se comporte comme s'était comporté le major général. Il y avait eu des moments de doute où son cœur avait faibli, mais en lisant les mots de l'homme qu'elle aimait, elle comprit combien elle avait été dans l'erreur en faiblissant si peu que ce soit. Il avait parlé d'une matière à laquelle tout son bonheur futur était intimement lié. Et il y avait eu ces allusions malicieuses à son bonheur à elle, allusions qui n'étaient pas les moins plaisantes pour elle, car il avait prétendu que l'autre personne était peut-être indifférente. Elle lui fit une petite moue, comme s'il était présent tandis qu'elle lisait, avec une joyeuse affectation de dédain. Non, non, elle ne pourrait consentir à un mariage immédiat à Avranches. Il fallait attendre. Mais elle allait lui écrire et lui expliquer tout cela. Alors, elle lut la lettre de sa tante. Elle en fut très affectée. Elle la relut entièrement deux fois, puis fut prise d'un doute, et elle reconnut en elle-même qu'elle devait reconsidérer toute l'affaire. Mais même quand elle ne faisait que la lire, avant qu'elle ait commencé à réfléchir, la joie qu'elle avait éprouvée commença à la quitter pour disparaître presque complètement. Il y avait tant de choses qui étaient vraies, terriblement vraies. Bien sûr, son devoir devait être souverain. Si elle en venait à se persuader que le devoir lui commandait d'abandonner Philippe, alors elle devrait l'abandonner, quelque souffrance qui pût en résulter pour elle-même et pour les autres. Mais justement, quel était son devoir? Se sacrifier soi-même et l'héroïsme des femmes. Oui, elle le croyait. Mais alors, c'était aussi sacrifier Philippe, qui, sans nul doute, était sincère quand il disait que son propre bonheur était à jamais lié à son amour. Elle fut touchée également par tout ce qu'écrivait Mrs. Miles à propos de la grandeur de la famille Launay. Elle en savait assez sur les Launay pour être très au courant des idiosyncrasies aristocratiques de la vieille dame. Elle, Bessie Pryor, n'était personne. Il aurait mieux valu que Philippe Launay fonde son bonheur sur une jeune fille de plus haute naissance. Mais il ne l'avait pas fait. Le mariage du roi africain Cophetua avec la mendiante avait finalement été reconnu par le monde. Et Philippe n'était pas mieux que le roi Cophetua, et elle ne valait pas moins qu'une mendiante. L'égalité dans un mariage était sans aucun doute commode, mais nullement indispensable. Et bien qu'elle ne soit pas l'égale de Philippe, elle n'en était pas moins une lady. Elle ne le déshonorerait pas à sa table ou parmi ses amis. Elle était sûre qu'elle serait pour lui un soutien dans ses travaux. Mais les passages de la lettre de la vieille dame qui la remuèrent le plus furent ceux où elle laissait libre cours aux épanchements de son cœur et évoquait sans réserve son amour pour sa très chère Bessie. « Les jours me sont un fardeau parce que je n'ai pas ma chère Bessie auprès de moi. Il était impossible de lire cela et de ne pas avoir quelque désir de se soumettre. Comme la vieille dame avait été bonne pour elle. » N'était-ce pas grâce à elle qu'elle avait connu Philippe? Mais pour Mrs. Miles, que serait sa vie? Bessie pensait que, si elle avait été certaine du bonheur de Philippe, si elle avait pu être sûre qu'il encaisserait le choc, elle aurait fait ce qui lui était demandé. Elle aurait accompli son acte d'héroïsme et montré toute l'étendue de sa gratitude, et elle aurait pris plaisir à veiller au confort de sa vieille amie. Mais seulement, elle avait fait une promesse à Philippe. Tout ce qu'elle devait à qui que ce soit au monde devait s'effacer complètement devant ce qu'elle lui devait à lui. Elle aurait bien consulté Miss Gregory, mais elle ne savait que trop bien ce que celle-ci lui aurait conseillé. Elle aurait parlé du major général et de sa propre expérience. En conséquence, Bessie résolut de s'allonger sur son lit et d'y réfléchir, et de ne pas prendre d'autre conseiller que son propre cœur.